avec les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé, c'est marqué Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Vendredi sur Radio Canu, c'est donc l'heure du Canu Info à 19h09 avec un petit peu de retard. Pour commencer, ce soir, on a la chance d'avoir une représentante du collectif Hébergement en danger qui va venir nous parler d'une nouvelle circulaire contre l'hébergement.
Ensuite, tu vas parler du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église.
On enchaînera avec des nouvelles pratiques de l'État qui somme la RDR de dénoncer les organisateurs de Free Party.
Et ensuite, tu vas nous lire le communiqué commun contre la loi Drone 2.
On enchaînera, comme toutes les semaines, avec l'agenda.
Et enfin, le ACAB.
Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Et on va vous parler logement aujourd'hui. On a une représentante du collectif Hébergement en danger qui va nous parler un peu du collectif, évidemment, et surtout d'une nouvelle circulaire où l'État attaque à nouveau l'hébergement en France.
Donc je représente le collectif Hébergement en danger qui a maintenant 3 ans. Nous sommes un collectif de travailleurs sociaux inquiets pour l'hébergement, notamment à Lyon, et surtout pour les personnes sans droit ni titre qui en sont le plus souvent privées. Donc là, aux dernières nouvelles, cet été, le ministère du Logement a envoyé aux préfectures une circulaire qui a pour but de modifier la gestion du parc de l'hébergement et du logement social. Donc parmi ces modifications, on peut surtout retenir la réduction du parc d'hébergement au profit du logement. C'est-à-dire que dans l'idée de promouvoir le logement d'abord, le logement accompagné, et donc que les personnes puissent accéder au logement, l'idée serait de réduire le parc d'hébergement et donc qu'il y ait moins d'accès au foyer pour les personnes qui en ont besoin. Donc nous, ce qu'on observe, c'est que ça réaffirme la logique de l'appel à projet. C'est-à-dire que les associations vont être mises en concurrence et que c'est le financeur qui va décider d'un besoin et d'un financement, qui va demander aux associations de répondre à un appel à projet, et celle qui y répondra au moins cher pourra l'obtenir. Donc évidemment, le risque, c'est qu'il y ait clairement une sous-évaluation des besoins et après une impossibilité de répondre réellement aux observations du terrain. Ce qu'on peut se dire aussi très clairement, c'est qu'on voit très bien que le parc locatif est déjà saturé, que l'accès au logement pour qui que ce soit est compliqué. Mais alors on ne voit pas bien comment pour les personnes les plus précaires, on pourrait d'un coup d'un seul ouvrir des places de logement aussi facilement. Surtout qu'il y a clairement des besoins croissants. Là, il y a 10 000 demandes d'hébergement à Lyon, donc 10 000 ménages qui sont dans l'attente d'avoir une place en foyer. Et cette tendance, évidemment, ne fait qu'augmenter. Et la réponse de l'État est plutôt de diminuer l'hébergement. Donc, nous, ce qu'on se demande, c'est comment cette circulaire va respecter la loi. Donc, la loi, c'est un droit à l'hébergement pour toutes et tous, un accueil inconditionnel, c'est-à-dire quel que soit le titre de séjour en France, et la pérennité de l'hébergement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de remise à la rue derrière. En plus, nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est une diversité de l'hébergement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas en foyer dans le but forcément d'aller en logement. Il y en a aussi qui auraient besoin d'être en foyer, d'être dans un lieu où ils peuvent se reposer, où ils seraient accompagnés, et où on ne leur demande pas à chaque instant de s'insérer, de sortir en logement, de rentrer dans une vie banale et normale, et surtout, évidemment, de rentrer dans une vie rentable, parce que la réinsertion, c'est surtout ça. Sauf que là, dans cette circulaire, on voit des questions de fluidité, d'objectifs, et ce qu'on voit clairement venir, c'est donc une pression sur les associations et les travailleurs sociaux à ce que la personne accompagnée se réinsère vite et sorte de l'hébergement. Et là, au-delà de la circulaire, même plutôt dans la logique de tous les financeurs, c'est que la question du logement d'abord, qui est donc l'idée qu'une personne, plutôt que de passer par des foyers et fasse ses preuves en foyer, aille directement de la rue au logement, ce qui est un très beau paradigme et quelque chose qu'il faut défendre. Le logement d'abord est devenu un outil de communication qui justifie la réduction des coûts. Et donc là, on utilise un terme positif, on le vide de son sens pour des logiques gestionnaires et pour payer moins cher. Alors après, on n'est pas non plus un collectif qui somme absolument contre tout. On est d'accord avec la fin de la gestion au thermomètre qui est prévue dans la circulaire. Évidemment, les personnes doivent être à l'abri été comme hiver. Mais encore une fois, on ne veut pas que ce terme de la fin de gestion au thermomètre soit pensé simplement comme une réduction des coûts.
Et puis, on a entendu la fin de la gestion au thermomètre. Est-ce que c'est du coup d'héberger les gens toute l'année ? Est-ce que c'est juste de les laisser dehors toute l'année ? Puisque finalement, c'est des termes qu'on entend depuis de nombreuses années dans la bouche de différents collectifs militants et même quelques associations qui parfois osent militer. Mais du coup, on a l'impression qu'ils répondent à ce qui était demandé.
Là, c'est ça. Vulgairement, on demande la fin du gestion au thermomètre depuis des années et ça nous a un petit peu pété à la figure parce qu'on nous a dit que potentiellement, il n'y aurait pas d'ouverture de place cet hiver ou alors seulement des places de gymnase. On attend encore de voir ce qui va se passer cet hiver. Mais on ne sait pas quoi attendre, sauf que les personnes dehors qui avaient l'habitude de cette gestion-là, là commencent à se dire qu'il fait froid et qu'elles sont dehors et que potentiellement rien ne va être ouvert pour elles.
Une bonne chose finalement, mais les gens ni à l'abri l'hiver, ni à l'abri l'été, c'est finalement ça la réponse du gouvernement.
Ensuite, on est aussi d'accord avec la fameuse gestion territorialisée qui est nommée dans la circulaire. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il faut que le social coûte moins cher, mais il faut qu'il soit au plus près des besoins et des réalités de terrain. Et enfin, ce qu'on demande, c'est une proposition globale de logement et d'hébergement dans le respect des droits de la loi, de la dignité, de la continuité et de l'inconditionnalité de l'hébergement. On demande l'ouverture de 15 000 places d'hébergement qui correspondent à toutes les demandes d'hébergement dans le Rhône. On demande la régularisation de tous et toutes les sans-papiers. On demande des politiques globales, cohérentes et sur le long terme en ce qui concerne le logement et l'hébergement. Comme je vous disais, on demande l'inclusion des travailleuses et travailleurs sociaux et sociaux ainsi que des personnes à la rue et hébergées dans les prises de décision. Ils se tromperont beaucoup moins comme ça. En fait, au lieu de s'entourer de chargés de communication et d'utiliser les termes que nous on utilise au quotidien au profit de communication et de réduction des coûts, entourez-vous des gens qui travaillent dans le système. Et enfin, on veut l'arrêt du système d'appel à projet qui met en concurrence les associations et qui génère une gestion de l'hébergement au bas coût.
Et bien encore des bonnes nouvelles pour l'hébergement, pour les personnes à la rue, pour les personnes en squat qui espéraient peut-être avoir le droit de vivre dignement. Il semblerait que la gestion néolibérale de l'hébergement et de la politique du logement ne soit pas encore tout à fait dans ce qu'on aimerait.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on enchaîne sur les nouvelles avec la publication au début de ce mois du rapport Sauvé. Vous en avez certainement entendu parler dans la presse ou à la radio, en tout cas je l'espère. C'est donc un rapport qui a été écrit par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est le fruit de plus de 3 ans de travail et ce rapport nous livre des chiffres terrifiants sur la pédocriminalité au sein de l'Église. Pour commencer, voici ce que l'on peut y lire, entre autres. Environ 215 000 personnes auraient subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans de la part d'un membre du clergé. On y trouve encore ceci. Si l'on considère les violences perpétrées par une personne en lien avec l'Église, donc des personnes qui travailleraient dans les internats catholiques, qui s'occuperaient du catéchisme, de l'aumônerie, etc., etc., on aboutit à une estimation moyenne des 330 000 personnes concernées. Et le tout sur seulement les 70 dernières années. D'un point de vue méthodologique, ce rapport est le fruit d'une enquête dite de population générale qui a été menée de fin 2020 à début 2021. C'est 28 000 personnes de plus de 18 ans, échantillons par quota, qui ont été interrogées par Internet. Complètement anonyme, elle a reçu la validation du comité d'éthique de l'INSERM. Par ailleurs, les auteurs et les autrices ont lancé un appel à témoignages qui a eu lieu en 2019-2020, en association avec France Victimes. Et là, c'est plus de 6000 personnes qui ont répondu. Parmi elles, plus de 2000 victimes de violences sexuelles ont été identifiées et 1600 ont accepté de répondre à un questionnaire plus détaillé, dont malheureusement 1400 personnes mineures au moment des faits et des personnes majeures dites vulnérables. Les répondants majeurs au moment des violences ne sont quasiment pas pris en compte dans ce rapport. Effectivement, la commande était sur la pédocriminalité. Dans un deuxième temps, il y a une enquête avec une entrée plus qualitative, donc 75 entretiens qui ont été menés, dont 45 avec des personnes mineures au moment des faits et 24 avec des personnes dites majeures vulnérables. À ce moment-là, parmi ces personnes interrogées, il y avait aussi 17 religieuses, 2 séminaristes et 5 laïcs victimes de violences sexuelles et ou d'abus spirituels. Une partie spécifique de ce rapport est d'ailleurs consacrée à ces personnes. Malheureusement, on peut noter que les chiffres qui sont donnés sont une estimation a minima. Car, nous dit l'INSERM, nombre de personnes ne peuvent ou ne souhaitent pas évoquer de tels événements dans le cadre d'une enquête. Et parce que les personnes victimes de violences présentées dans ce rapport ne tiennent pas compte de la situation dans les départements et régions d'outre-mer. Toujours plus apte à juger les pécheurs des autres jusqu'à présent, l'Église estimait le nombre de victimes à seulement 5000, donc très 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 loin de la réalité proposée par le rapport Sauvé. on est là aussi très 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 loin des prétendues valeurs que l'institution prétend défendre. À titre comparatif, l'INSERM nous rappelle que malheureusement la famille reste le premier lieu des violences sexuelles et de façon très large, mais que ces violences au sein de l'Église sont, je cite, proportionnellement plus fréquentes que celles qui surviennent dans d'autres instances de socialisation non familiale comme l'éducation nationale, les clubs de sport ou encore le cadre d'activités culturelles et artistiques. L'enquête INSERM nous insiste sur la spécificité des violences au sein de l'Église. Parmi les premiers faits commis par les membres du clergé, 93 d'entre eux sont intervenus avant l'âge de 18 ans. On est donc sur quelque chose qui touche massivement des enfants. Ils sont commis à 93% par des hommes et touchent, et c'est là peut-être la principale différence avec les violences sexuelles au sein des familles, elles touchent majoritairement des hommes dans l'Église. Par ailleurs, elles sont plus souvent répétées dans le temps, car seulement 35% d'entre elles ne se sont produites qu'une seule fois, alors que c'est plutôt la moitié si on prend l'étude de toute la pédocriminalité. Enfin, dans près de la moitié des cas, la personne avait connaissance d'autres violences perpétrées par son agresseur au sein de l'Église, soit deux fois plus souvent que les violences survenues dans d'autres cercles. Enfin, le rapport nous dit que l'on peut estimer que 5900 violeurs auraient commis des infractions sexuelles. Si on rapporte cette estimation au nombre des personnes abusées, alors chaque violeur aurait agressé en moyenne 36 personnes mineures tout au long de son activité sacerdotale. Après cette avalanche de chiffres, prenons quelques instants. Car si le nombre d'abus nous montre bien une dérive systémique que l'Église va avoir du mal à cacher, il est toujours horrifiant d'imaginer ce qu'ont vécu et ce que vivent au quotidien les victimes des religieux. Abusés dès leur plus jeune âge par un adulte qui avait à charge de les protéger. La volonté de l'institution et de ses membres de se protéger rend extrêmement difficile la dénonciation des violeurs. Même lorsque les victimes arrivent à trouver le courage de parler, l'entourage et les religieux préfèrent presque systématiquement une gestion qu'ils appellent en interne, où finalement rien ne sera fait, si ce n'est l'exercice d'une nouvelle violence sur celui ou celle qui aura la force de dénoncer. Car c'est là aussi une des grandes forces de cette dérive systémique, c'est de pouvoir museler et de pouvoir taire et cacher sous le tapis toutes les dérives. Encore une fois exemplaires dans leur défense de classe, les politiciens et les politiciennes, que l'on sait toujours prompts à se saisir du moindre fait divers où ils peuvent apposer le mot musulman, sont restés bien discrets cette fois. Si certains et certaines y sont allés de leur petit tweet pour nous expliquer qu'ils ne se doutaient de rien, que c'était très grave, très inquiétant, aucune proposition politique n'a été faite pour lutter contre ce fléau. Aucune proposition, cette fois, de peine plancher, de durcissement de la justice, pourtant si chère à la droite lorsqu'elle arrive à parler des banlieues. Interrogé sur ce que dit la loi en matière de non-dénonciation d'agression, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, donc ce monsieur est le représentant des évêques, nous a déclaré que le secret de la confession s'impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République. Alors que l'on aurait pu s'attendre à une levée de bouclier sans précédent de notre gouvernement, qui a, rappelons-le, pour passe-temps favori de jouer à qui dira le plus souvent séparatisme à la télé, c'est bien un silence assourdissant qui a hanté l'espace médiatique. Évidemment, quelques réflexions sont passées ça et là, mais sans aucun rapport avec ce qui aurait été si un imam avait osé défendre cette position. Enfin, ne remercions pas les commentateurs qui ont lié ces viols à la question du célibat des membres du clergé et par là même à leur obligation de chasteté. Car non, il n'existe toujours pas de besoin fondamental des hommes à avoir des relations sexuelles, encore moins avec des personnes non consentantes et encore moins avec des enfants. Il est insupportable d'entendre encore des personnes porter cette naturalisation de comportements violents. Interrogeons-nous plutôt sur les rapports de pouvoir induits par l'Église, par le patriarcat, car une fois encore, seuls les hommes peuvent être prêtres et par l'incapacité de l'organisation religieuse à reconnaître ces atrocités. Après ces mauvaises nouvelles et le temps de s'en remettre un peu, on va vous proposer de passer un petit peu de musique.
Oui, je me demande si on ne devrait pas éventuellement réfléchir tout haut à l'idée de former un nouveau territoire qui pourrait dans l'avenir se transformer en état, voire en république indépendante.
Pas en dictature ?
Pourquoi on voudrait une dictature, putain ? Pour faire taire la voix du peuple et ouvrir la route à l'ennemi ?
Comment rester
est radioactif comme l'air de Pripyat. Que chaque crime reste corrosible avec le sens adéquat. Comment lester sans commentaire l'épreuve des chavanas de frat. Comment s'en sortir sans séquelles et dans la mêlée rester compact. Yo, Vladus Semtex sur l'instru, les neurones en connexion, tout ça pour finir en intrus. En défenseur des causes perdues, on vient pour réveiller le peur. Refoute de l'essence dans le carbu, histoire de pas marcher au pas. Pour Skyrock et les autres, une balle dans la nuque comme la Tcheka. Et de la Tcheka au crête rock, y'a des gens qui diront check ça. Sympathique comme Tchekika, on vient pas danser la carioca. On boit pas de chez mais de la vodka. Tout ça pour noyer la haine, qui fait que le soir on s'endort pas. J'aime toujours pas quand ça mord pas. Plus une rime pour venger l'orca. Et Marie Rite l'épée en main, qui repart au combat. Mine un ergal calavera, fait chaud cul rare dans nos cars. Quoi, c'est ce qu'on t'envoie. Envoie le M pour la marche, et le A des antifa. Le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars, et puis un D pour les démons. Envoie le M pour la marche, et le A des antifa. Le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars, et puis un D pour les démons. Encore un son de guerre pour tous les corps qui s'enterrent. Encore un peu de pierre pour leurs flics, leurs militaires. Encore un peu de nous pour pas finir la gueule par terre. Encore un peu de haine, encore un peu de haine. Toujours du côté de ceux qui portent les chaînes. Du côté de ceux qui stagnent en bas de l'échelle. Du côté de ceux qui pour foutre le bordel s'échinent. Ceux allergiques aux normes qui pour faire autrement se déchaînent. J'enchaîne, histoire de garder la vibe et la rage. Un truc tendu comme un bon concert à l'arrache. Histoire de faire bouger la tête à quel pirate quelques apaches. Ou pour tous ceux pour qui la priorité n'est pas le cash. Ceux qui espèrent qu'un jour ce système se crache. Ceux qui sur les bancs en uniforme même le visage plein de crash. Ceux qui à la moindre lueur d'espoir s'accrochent. C'est pour tout ça que nos trois voix s'accordent.
Le M pour la marche et le A des antifas. Le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démons. Le M pour la marche et le A des antifas. Le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démons.
Rester radioactif comme les ruines d'Hiroshima. Toujours rester actif sans jamais suivre leur schéma. Je sais pas ce qu'est devenu le rap, de la variétoche ou du blabla. Dans ce milieu, trop tête à claque, pas plus de sens que l'eczéma. Faut faire comprendre aux petits que le rap ne se limite pas. T'aspect au bling bling, grosse bagnole sur des parkings. C'est clair que ça, on limite pas sur leurs tripes et leurs contrats. Jamais on ne s'alignera, délire d'ado qui se la comptera. Notre navire glisse sur les flots, à contre-courant. Ici on bosse le flow, mais ça remplit pas le compte courant. On rappe dans toute l'Europe, ça nous dope, nous rend vivants. De partout on a des potes, prendre la route est excitant. Et l'on revient en force sur des prods acrobates. Quand l'instru s'amorce, c'est les clichés qu'il faut abattre. On s'arrachera les cordes vocales dans un bar ou un local. Radioactif dans ta focale, c'est MR part en spirale.
Des antifas, le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démons. Le M pour la marche et le A des antifas. Le R pour la rage, Y pour l'IPIP blanc. Encore un R pour la révo, un E pour la barre émo. Il reste un A pour les sanars et puis un D pour les démons.
Et après ce morceau du collectif Marie Reed qui porte le nom du collectif, on va continuer dans la musique, mais de façon un peu moins sympa, avec la répression des free parties qui se met en ordre au gouvernement.
Deux associations qui informent sur les risques liés aux drogues dans les événements festifs ont reçu des procès-verbaux leur demandant d'en dénoncer les organisateurs. Elles déplorent une répression qui met à mal la santé publique. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la réduction des risques, c'est l'idée d'un travail en collaboration avec les usagers de drogue pour faire de la prévention et parler avec eux de leurs pratiques et comment les rendre plus... moins dangereuses pour leur corps. L'idée est quand même d'un travail très horizontal où le soignant se nourrit autant de la pratique de la personne qu'il lui transmet aussi des bonnes pratiques. Donc, c'est une mauvaise surprise qui est arrivée début août dans la boîte mail de l'association lyonnaise Keep Smiling, un procès-verbal de réquisition de la part de la gendarmerie nationale de Saint-Marcellin en Isère. Ces animateurs et bénévoles y informent...
Ils sont informés par la police, on imagine.
Le PV daté du 4 août demande à la présidente de l'association de bien vouloir fournir toutes les informations en sa possession concernant l'organisation récente d'une free party dans le département de l'Isère. Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, coordonnées téléphoniques et adresses des organisateurs ayant sollicité l'intervention de l'association sur l'événement. C'est-à-dire que la gendarmerie a demandé à Keep Smiling de dénoncer les organisateurs de l'événement. Si elle ne s'exécute pas, l'association risque 3 750 euros d'amende. Et d'autres poursuites ne sont pas exclues. Le 9 septembre, c'est au tour d'une autre association, Techno Plus, de recevoir un PV similaire pour les mêmes raisons. Il émane cette fois du procureur de Nantes, demandant de donner les coordonnées des organisateurs d'une free party qui aurait eu lieu du 14 au 15 août. L'association nie avoir été présente lors de l'événement, c'est-à-dire que leur flyer tourne énormément de Paris, Nantes à Bordeaux, et donc ils peuvent très bien être diffusés dans les soirées sans qu'ils y soient présents. La réduction des risques liés aux consommations de drogue est reconnue comme un outil important de santé par les pouvoirs publics depuis les années 90. Elle est aujourd'hui encadrée par la loi de santé de 2016. Mais depuis le début de la pandémie, la répression des free parties sont l'objet d'un zèle de plus en plus marqué des forces de l'ordre. Avec ce PV de réquisition, la police et la justice tentent de se servir du lien de confiance nécessaire entre les organisatrices et les acteurs de la réduction des risques pour réprimer les free parties. Mais cette action n'entraînera ni l'arrêt, ni la diminution du nombre de fêtes, a alerté Keep Smiling. Le courrier a été signé par une douzaine d'associations, dont Médecins du Monde. En tentant de criminaliser une fois de plus les acteurs de réduction des risques, la seule conséquence sera d'empêcher l'accès des publics concernés aux actions de réduction des risques et de discréditer une fois de plus cette politique publique de santé. Aujourd'hui, TechnoPlus et Keep Smiling ont décidé de communiquer au grand jour sur ces difficultés. Je cite, « Nos deux associations, historiquement liées à la fête libre, sont subventionnées pour intervenir depuis 25 ans dans les fêtes techno-alternatives, que l'événement soit légal ou illégal. Nous permettons un accès à la santé et à l'information sur les risques liés aux pratiques festives. Nous prenons en charge, si besoin, les personnes en difficulté. En nous demandant de briser cette confiance mutuelle, la justice balaye des années de travail. Ces pressions de la part des forces de l'ordre interviennent alors même qu'en juillet, la délégation interministérielle à la jeunesse rappelait noir sur blanc dans une instruction au préfet et au recteur d'académie que la réduction des risques et des dommages sanitaires, psychologiques et sociaux associés est encadrée par la loi et permet en milieu festif d'intervenir sur les lieux de l'événement pour informer, prévenir, repérer et prendre en charge les usagers. La réduction des risques sur les lieux de fête est bel et bien utile, selon le ministère de la Jeunesse. En plus, précise l'instruction, les acteurs intervenant au titre de la mission de réduction des risques bénéficient d'une immunité pénale dans le cadre de ces actions. De quoi se contredire ? Il se pourrait bien que sur le sujet, les positions divergent entre le ministère de la Jeunesse et de la Santé d'un côté et le ministère de l'Intérieur de l'autre. Mais bien sûr, au final, c'est la santé publique qui risque d'en pâtir.
Eh bien, encore des bien bonnes nouvelles de cet État qui aime beaucoup contrôler, entre autres, les free parties. Mais malheureusement, on a aussi un retour, un énième retour de la loi Drone 2. Pour rappel, ça fait un an et demi que le gouvernement essaie de la faire passer, qu'elle est systématiquement repoussée, refusée, retoquée, parce que manifestement, elle porte atteinte à notre, liberté, et à notre dignité, cela dit, ça marche aussi. Mais évidemment, le 18 septembre, c'est le Sénat qui s'occupe de l'examiner. Alors, face à tout ça, il y a entre autres la Quadrature du Net et 60 autres organismes et collectifs et associations qui ont signé une lettre ouverte qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Le gouvernement est de retour pour autoriser les systèmes de surveillance qui, d'abord prévus dans la loi Sécurité globale, avaient été censurés par le Conseil constitutionnel en mai 2021. Cette nouvelle loi, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale le 23 septembre dernier. Le Sénat l'examinera donc ce 18 octobre. Il doit la rejeter. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, ces systèmes de surveillance nuiront tant à notre liberté qu'à notre sécurité, dès lors qu'ils organisent l'escalade technologique des violences policières. Les articles 8 et 9 autoriseront la surveillance par drones, hélicoptères et voitures. Depuis plus d'un an, la police déploie illégalement des drones pour nous surveiller, malgré deux interdictions du Conseil d'État, une sanction de la CNIL et une censure du Conseil constitutionnel. Les drones sont inutiles aux actions de médiation, d'apaisement et de dialogue avec la population. Ce sont des outils démultipliant les capacités de surveillance et de contrôle qui facilitent avant tout les interventions violentes de la police, notamment en manifestation, afin d'en dissuader les militants et militantes d'exercer leur liberté de réunion et d'expression politique. L'article 7 autorisera, lui, la vidéosurveillance des cellules de garde à vue. Le gouvernement prétend ainsi agir pour diminuer les risques de suicide, d'automutilation et d'agression, car c'est bien sûr les suicides et les automutilations ce qui fait du mal et qui violente les personnes en garde à vue. Plutôt que de protéger les personnes arrêtées, il s'agira de renforcer les pressions et les violences psychologiques causées contre elles par l'enfermement et une surveillance de chaque instant sans aucune garantie ni limitation sérieuse. L'article 16 autorisera la police à recourir à la violence physique pour obtenir des empreintes digitales et la photographie des personnes suspectées d'avoir commis une infraction punissable d'au moins 3 ans de prison. Cette violence pourra s'exercer contre des enfants de 13 ans, pour peu que la police les suspecte d'avoir commis une infraction punissable de 5 ans de prison. Les empreintes et photos ainsi obtenues pourront évidemment être recoupées avec les fichiers de police existants, notamment par la reconnaissance faciale qui fascine toujours autant nos dirigeants. La Quadrature du Net nous dit que cette loi organise un monde où les développements technologiques renforcent et justifient les violences que la police peut exercer contre la population. Cette escalade de la violence ne repose sur aucun besoin objectif qui serait soutenu par des études ou des chiffres concrets. Elle ne semble viser qu'au développement d'un État policier qui, une fois en place, ne s'encombrera pas des limites que le droit aurait tenté de lui poser. Les 4 interdictions rendues l'an dernier n'ont pas empêché la police de déployer des drones aujourd'hui. En conclusion, on progresse encore dans cette technopolis. La reconnaissance faciale qui fait fantasmer tous les gouvernements européens et même ailleurs en ce moment. Et peut-être si un jour vous voyez un drone dans une manif et que vous avez un petit caillou à lui jeter, n'hésitez pas, ils adorent ça.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda ! Et un agenda un peu plus fourni, ça fait plaisir après quelques semaines, mois et même une pandémie, pareil, qui a limité les événements. Pour commencer, le 23 octobre, c'est donc demain, il y a une manifestation contre les violences et l'extrême droite. Rendez-vous à 14h30, place Bellecour. On se rappelle de la dizaine d'attaques des fascistes à Lyon. Et du coup, c'est un appel assez général. Alors, on ne va pas citer tout le monde, mais la CNT est là, l'UCL évidemment, le collectif Justice pour Mehdi, Alternatiba Jeune Garde, entre autres, et le comité de soutien aux inculpés antifascistes du 23 septembre.
Ensuite, samedi 23 octobre encore une fois, au Grand Zéro de 19h à 1h30 du matin, c'est une soirée du collectif hip-hop féminin avec Dance Squad, Cœur, Maévol, Oxytocine et d'autres.
Ce sera pour le mercredi. Il y a la dérive en Smart City ou visite de la ville machine. Si ça vous plaît de regarder où sont les caméras, où est-ce qu'on peut savoir où vous êtes, quand est-ce que vos mouvements seront analysés dans très peu de temps, vous avez rendez-vous à la rue du Gamombel, proche de la place des archives, à 17h30 ce mercredi. Et ce sera tous les mercredis, si je ne dis pas une bêtise.
Et enfin, le groupe Soin invite Laurence Loutre-Barbier pour la présentation de son spectacle « L'adieu au visage », récit poétique et musical d'une expérience dans le milieu funéraire. Il sera suivi d'une discussion collective sur nos possibilités et marges de manœuvre lors de la mort d'un proche. C'est un spectacle et une discussion de 15h à 19h à l'Amicale du Futur.
Alors, il semblerait que le jingle ACAB mette de la mauvaise volonté. On va donc s'en dispenser et malgré tout se lancer sur le ACAB de cette semaine. Alors, cette semaine ACAB, ça veut dire quoi ?
Arrête de courir après des bourgeois.
Sauf si c'est pour leur lancer un pavé, bien sûr. Voilà, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bientôt, dans un quart d'heure maintenant, ce sera Noise Pollution. Préparez vos oreilles et à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes.